Bonjour à tous. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir vous raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, j'ai vraiment eu le privilège de naître dans un foyer où Jésus était placé au centre. Et j'ai vu que ça faisait toute la différence. J'ai grandi dans un foyer où mes parents étaient passionnés par Jésus. C'était une joie d'aller aux réunions. Et vraiment, la paix était dans notre foyer. Et quand je voyais le monde qui m'entoure, quand je voyais que ce soit à l'école, comment ça se passait dans les foyers, je me disais, mais il y a quelque chose de plus dans mon foyer. Je vis dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alors oui, il y avait des difficultés, mais Jésus était là. Et en fait, donc je me suis appuyée sur cela, mais j'avais besoin de faire une expérience personnelle. Parce qu'une rencontre avec Jésus, elle doit être personnelle. Et du coup, à l'âge de 13 ans, on partait en vacances avec mes parents. Donc j'ai deux frères aînés, mais qui sont plus âgés que moi. Donc là, j'étais avec mes parents en voiture. Et là, on a eu un très, très grave accident de voiture. On partait en vacances et un accident très grave. Et là, je me suis retrouvée. Mes deux parents étaient sans connaissance. J'ai cru qu'ils étaient morts. Donc, je criais au secours. Personne venait parce que tout le monde pensait que c'était terminé, qu'il n'y avait plus aucun survivant dans la voiture. Et puis là, j'ai crié à Dieu. J'ai vraiment crié à Dieu. Quelqu'un est venu me faire sortir de la voiture. J'ai été complètement indemne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques instants avant le choc, c'était une période avant où la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Et vraiment, 3 minutes avant l'impact, sur mon cœur, j'ai eu cette parole « Mets ta ceinture de sécurité ». Donc, j'ai attaché ma ceinture. Et si je n'avais pas attaché ma ceinture, j'aurais été expulsée. C'était sur une voie rapide où les gens roulaient à 110 km/h. Donc, j'aurais été expulsée du véhicule. Donc, quelqu'un a ouvert la porte et là, je me suis mis à genoux au bord de la route pour prier. Et vraiment, j'ai compris qu'à cet instant-là, que Dieu m'avait gardé. Mais en même temps, il y a cette question qui est venue sur mon cœur. Si ça avait été pour moi le dernier instant de ma vie, si j'étais partie à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se serait passé? Je n'avais pas fait la paix avec Jésus. Et là, j'ai vraiment réalisé la puissance de la croix. À ce moment-là, j'ai compris que Jésus, s'il était monté sur ce bois, c'était pour moi. Que j'avais besoin vraiment de lui demander pardon parce que, oui, j'avais péché, j'avais manqué le but. Et à ce moment-là, j'ai reçu le pardon de Dieu. Je me suis sentie complètement libérée. Et du coup, vous voyez, le Seigneur, il change le mal en bien hein, parce que mon papa était gravement blessé. Mais là aussi, le Seigneur a posé sa main parce qu'il a pu être complètement rétabli. Et je voulais aussi partager un petit témoignage avec vous pour vous dire que vraiment, on a le Dieu des miracles, un Dieu qui agit encore aujourd'hui, vraiment. Et ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Il y a 2 ans de cela, j'ai ma belle-sœur qui a été vraiment pour moi comme une grande sœur parce que j'ai 12 ans d'écart avec mon frère aîné. Ils se sont rencontrés jeunes, elle a vraiment été pour moi une grande sœur. À l'âge de 40 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Un cancer très agressif, le pronostic était vraiment très mauvais aux yeux de la médecine. Et donc quand on a appris cette nouvelle, forcément, hein, quand un membre de sa famille souffre, ça a été un choc pour nous. Mais on s'est mis à genoux dans la prière et on a invoqué le Dieu des miracles. Et donc elle est passée par des traitements importants, de la chimiothérapie, mais elle était dans une paix. Et elle nous disait, au sein de sa maladie, je ne voudrais être nulle part ailleurs que là où je suis maintenant. Donc elle avait sa fille qui avait à l'époque 14 ans et une autre de 8 ans. Et on sentait la famille portée par Dieu, vraiment, vraiment portée par Dieu. Donc elle a passé sa chimiothérapie et ensuite on devait l'opérer. Et puis ils enlèvent la tumeur et là le cancérologue la reçoit dans son bureau et lui dit, écoutez, voilà, Madame Vernion, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais à l'ablation de la tumeur, il n'y a plus aucune cellule cancéreuse. Donc la chimiothérapie, c'est des choses qui n'arrivent jamais. D'habitude, oui, elle éradique quelques cellules cancéreuses, mais il en reste toujours. Pour vous, il n'y a plus rien. Donc vraiment, le miracle de Dieu, il l'a porté pendant sa maladie, il l'a guéri. Et c'est vraiment pour vous dire que voilà, on a un Dieu qui est vivant. Jésus est venu se donner pour nous, pour que nous puissions avoir le salut. Et il veut vraiment confirmer sa parole par des miracles. Attendez-vous à lui et vous allez voir que vraiment, vous allez pouvoir vivre des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse.
Alors très heureux de vous retrouver cet après-midi Un grand merci, on s'est régalé. Vous nous avez accueillis comme si on avait toujours été parmi vous. Un grand merci, on a été touché de l'accueil. Merci pour mon ventre bien rempli. Alors, je remercie aussi Cyril pour l'introduction par ses chants, parce que par deux fois, vous avez été invité à venir. Le premier, c'était « Ô viens et vois », et le dernier, c'était « Viens, ne tarde plus ». Et le thème de la prédication, c'est « Viens et vois ». Donc je vois qu'on s'est bien accordé. j'aimerais donc vous parler de ces rencontres qu'on peut faire. Et avec vous, cet après-midi, j'aimerais dresser trois tableaux de personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont vécu, qui ont répondu favorablement à cette invitation. Ben, « Viens et vois » ou « Venez et voyez ». Viens, une invitation. Viens et vois. C'est plus qu'une invitation orale, on pourrait se dire, mais on me parle des choses. Et peut-être qu'en ce lieu, ce n'est pas la première fois que vous venez et que vous entendez parler de Jésus, un peu comme une invitation. Mais là, c'est une invitation à expérimenter. Et quand Jésus nous dit « Viens et vois, viens auprès de moi, viens et sois sensible, tends l'oreille », c'est pour expérimenter la plus belle des rencontres. Cette rencontre qui transforme les vies. Mon épouse a pu vous raconter en quelques mots comment Jésus est intervenu pour la secourir. Moi, je suis là pour vous prêcher. Je ne vais pas vous témoigner de ce que j'ai vécu. Mais je pense que si je passais le micro à beaucoup d'entre nous cet après-midi, on pourrait témoigner avec ferveur, avec passion, de la patience que Jésus a eue envers nous. Et juste pour faire une petite parenthèse sur ma propre expérience, très rapide, Jésus a usé beaucoup de patience avec moi. Même si je me suis donné au Seigneur très jeune, il a usé de patience. Parce qu'en voyant un cœur dur, haineux, violent, n'importe qui d'entre vous dans cette salle n'aurait jamais voulu engager la conversation avec moi. Mais quand on prêche le Dieu de la patience et le Dieu de l'amour, le Dieu de l'insistance, parce qu'il nous interpelle, il veut vous interpeller, il veut m'interpeller, il veut nous interpeller cet après-midi, viens et vois. Parce que si Dieu le fait, c'est qu'il veut te rencontrer. Il veut te révéler à ton cœur quel prix tu as à ses yeux. Alors, on va lire un passage qui se trouve dans Jean chapitre 1. C'est le grand chapitre du « Viens et vois ». Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 45. Ne voyez aucune autopromo. C'est juste que c'est tombé sur lui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Voici, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, en bon sceptique qu'il était, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Et je vous invite à vous recueillir, on va encore placer ces instants sous le regard de Jésus et dans sa présence. Seigneur Jésus, nous nous plaçons tous ensemble devant toi. Seigneur, nous t'avons béni, nous t'avons chanté, nous avons confessé, proclamé que tu nous invites à venir te rencontrer. Nous avons aussi constaté par ces chants et par ce témoignage, combien tu es bon et rempli de patience à notre égard. Alors Seigneur, viens te révéler à nos cœurs. Seigneur, viens parler au cœur. Viens bénir celui qui en a besoin. Viens secourir celui qui est comme affligé. Viens guérir celui qui est malade. Car voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci par avance, Seigneur, des miracles que nous allons voir cet après-midi. Amen. Amen. Nathanaël a reçu cette invitation. Viens et vois. Et peut-être, et beaucoup ici pourraient dire, mais un jour on m'a invité, un jour on a osé me parler de Jésus. On est tous le fruit d'un courageux, d'une courageuse. Jésus se révèle et utilise ces faibles plantes que nous sommes pour porter le message autour de nous jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je ne sais pas, moi, ce que vous êtes venu chercher cet après-midi. Mais si tu es en recherche de vérité, si vous êtes en recherche de vérité, soyez attentifs. Parce qu'en ce lieu, et cet après-midi particulièrement, on va annoncer beaucoup de choses sur la personne de Jésus-Christ. Ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, l'œuvre de la croix. Parce que tout commence à la croix pour nos vies. Et peut-être qu'à la manière de Nathanaël, tu, dans ta vie, on t'a souvent dit, mais viens. Et puis, bon, un peu contraint, on s'est dit, bon, je vais les suivre, comme ça ils arrêteront de m'inviter. Et on plie le genou, on se dit, bon, allez, j'y vais. Et on nous invite. Mais est-ce que tu as vu de tes propres yeux qui est Jésus? As-tu expérimenté, sans vouloir faire un prolongement de le fait d'être éclairé vis-à-vis de ce matin, et loin de moi l'idée de continuer sur les pathologies oculaires, il y a une invitation, une interpellation de la part de Jésus à expérimenter qui il est. Parce qu'on peut avoir plein de savoirs, on peut connaître plein de choses, on peut même dire « moi je crois en Dieu ». Mais simplement, ça reste ici. Jésus, son désir, ce n'est pas de vous donner du savoir. Jésus, il veut que vous viviez la foi, que vous puissiez vivre son amour, vivre sa joie, vivre sa paix. Parce que Nathanaël, s'il était sous le figuier, c'était pas pour rien. En tant que bon juif, rigoureux de la loi, mais peut-être aussi sceptique, il était sous le figuier. C'était généralement les étudiants de la parole, ils se plaçaient sous un arbre, tranquille, personne n'était là pour les déranger, à l'ombre. Et il scrutait les Écritures, il méditait la parole. Et lui, ben, il a eu ce désir d'aller plus loin, d'analyser, de dire, voilà, on me parle de Jésus, mais moi j'ai envie d'avoir une conviction personnelle. Et comme l'a dit Élodie, c'est une expérience personnelle, c'est une rencontre qu'on fait. Et si Philippe a pu dire, viens et vois qui est Jésus, c'est parce qu'il n'avait pas envie d'avoir un échange théologique, parce que Jésus, c'est pas de la théorie. Jésus, il est pratique. Il allait partout, partout où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il offrait tout son cœur, sa personne. Mais Nathanaël, c'est le sceptique. Mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Lui, il savait ce qui était écrit dans les Écritures. D'après la prophétie de Malachie, il ne pouvait venir que de Bethléem. Alors Philippe dit, mais il est de Nazareth. Oui, il ne savait pas qu'il était né à Bethléem. Philippe, lui, il disait d'où il avait grandi, mais il ne savait pas qu'il était né à Bethléem. Donc lui, il sait, il connaît la parole. Et peut-être que tu as un savoir immense cet après-midi, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Alors viens et vois. Viens et vois, rencontre Jésus-Christ. Lui qui lit dans ton cœur cet après-midi. Puisque quand Nathanaël s'approche, Jésus lui dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il avait vu que son cœur, il était entier. Il était sincère dans sa démarche de foi. Son désir, c'était d'en savoir plus. Mais il était dans le savoir et pas dans le vivre. Pourtant, Jésus connaît son passé. Il connaît son nom. Il connaît son cœur, ses motivations. La compassion de Jésus qu'il avait pour cet homme-là dépassait son scepticisme. Jésus n'était pas venu faire un combat théologique en disant « mais les Écritures disent ça, mais toi tu penses ça ». Non, il est venu l'aimer. Il a porté un regard intéressé sur sa personne pour qu'ils puissent comprendre que le Fils de l'homme voit dans les cœurs. Il connaît nos cœurs. Alors on peut avoir tout un tas d'idées préconçues sur ce qu'est la foi. Mais viens et expérimente la rencontre avec Jésus. En effet, malgré le constat que nous sommes tous pécheurs et privés de la glorieuse présence de Dieu, Jésus nous aime à tel point qu'il est monté jusqu'au Golgotha pour mourir pour nos péchés. Quand on considère ce sacrifice, lui qui était juste parmi tous les injustes, si on considère toutes les souffrances, les injustices qu'il a subies, les crachats, les coups, les insultes, dis-toi, mon ami, que Jésus pensait à toi en montant sur ce Golgotha et qu'il le faisait pour ta vie, pour ton salut. Le désir de Dieu en envoyant son Fils donner sa vie gratuitement pour tous les pécheurs, c'est que nous arrivions au salut, que nous soyons sauvés. Mais cela n'est possible, mon ami, et tu peux mettre complètement de côté la croix si tu es simplement venu écouter quelque chose. Je t'invite à voir les miracles, à voir ce que Jésus a fait et voir ce que Jésus fait maintenant. Parce que notre Jésus, il est vivant. Oui, il est mort sur la croix il y a quasiment 2000 ans, mais il est ressuscité. Jésus est vivant et il agit en ces instants. Une deuxième rencontre, la Samaritaine, celle qui était près du puits. Alors, à savoir, elle y allait vers midi. C'est pas l'heure habituelle où on va prendre de l'eau. C'est l'heure où on était sûr de voir personne. Et elle le faisait exprès. Cette dame, la Bible nous révèle que par 5 fois, elle avait été divorcée et qu'en ce moment même, elle vivait dans le concubinage. Elle savait que, d'après la loi de Moïse, elle était condamnable et condamnée. Ceux qui habitaient dans la même ville qu'elle la blâmaient, la jugeaient. Elle ne pouvait plus supporter cela. Alors, elle allait puiser de l'eau à midi, sûre de rencontrer personne. Mais quelqu'un l'attendait. Ce Jésus. Ce Jésus qui l'a vu venir. Ce Jésus qui l'a invité à considérer qu'il était le Messie. À considérer qu'il pouvait lui offrir une eau bien supérieure au puits de Jacob, bien supérieure à toute notre soif d'en savoir plus, soif d'une vérité annexe, soif de compréhension de cette vie, comment ça se fait que des gens sont malades, comment... Cette dame avait plein de questions, elle avait une soif inassouvie, elle avait besoin d'être désaltérée. Elle vient au puits de Jacob. Mais Jésus, loin de la considérer comme ses contemporains, comme une paria, celle qui... C'est la divorcée, c'est celle... On n'a pas une bonne image d'elle, et puis on ne la considère pas comme grand-chose. Jésus voyait le fond de son cœur. Et elle l'a invité à considérer qu'il pouvait offrir lui seul l'eau qui jaillit jusque dans l'éternité. Tu es peut-être comme assoiffé de vérité. Tu es comme peut-être blâmé par cette société. Ta vie passée ressort toujours. Et tu as comme un poids de culpabilité qui t'écrase. Mais laisse Jésus porter son regard sur toi, à t'inviter à le rencontrer et à surtout t'inviter à venir à cette source qu'il est, la source de l'éternité. Et cette dame, quand elle a entendu cela, en disant mais donne-moi de cette eau, ça avait tiqué, donne-moi de cette eau que je ne vienne plus puiser ici. En gros, j'ai soif de liberté, j'ai soif d'autres choses. Donne-moi de cette eau. Jésus la met face à une réalité et il lui dit, va chercher ton mari. Voulant se dévoiler, mais pas trop, elle dira, mais je n'ai point de mari. Et elle a répondu juste, puisqu'elle avait été divorcée 5 fois et que celui avec lequel elle vivait n'était point son mari, simplement son concubin. Jésus veut te donner de son eau, te désaltérer. Il t'invite à le faire. Mais il y a une étape indispensable. Elle s'appelle la repentance. Si Jésus la met face à sa réalité, à cette dame, sans la juger, mais en l'aimant, c'est que la repentance est la clé du salut. Tu ne peux accéder au ciel si tu ne passes par la repentance. La repentance, c'est faire le constat de ce que je suis, dans le cas présent, oui, ça fait 5 fois que je suis divorcé, je mène ma vie, elle est décousue, j'ai honte de moi-même et j'essaye d'aller aux endroits où il y a peu de monde pour que surtout personne ne me rappelle ma faute. Mais face à Jésus, lui qui ne te jugera jamais, viens demander pardon pour ce péché. Parce que là, on parle du divorce, on parle du concubinage, on parle d'une vie décousue. Mais le péché, comme je l'ai annoncé ce matin et comme Élodie l'a aussi dit dans son témoignage, c'est manquer le but. C'est prendre une direction que Dieu n'a pas choisie pour toi. Parce que Jésus sait ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est tourner le dos à Dieu, prendre son chemin et laisser la croix derrière. Par contre, si tu choisis de suivre la croix, de viser la croix avec un regard assoiffé de vérité, assoiffé d'être comblé, tout simplement, alors il va falloir passer par la repentance. La repentance, c'est admettre mes fautes, demander pardon, se confesser auprès de Dieu. Entre parenthèses, Dieu seul pardonne les péchés, non pas des hommes. Demander pardon et prendre la ferme décision de ne plus vivre selon le schéma précédent. La repentance, c'est ces 3 domaines-là. Une profonde honte, le pardon et le rétablissement. Vivre, non plus vivre comme auparavant. Et cette dame qui avait été dévoilée face à un complet inconnu, Jésus de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, comme il a été dit dans le passage précédent, est métamorphosée. Cette dame est métamorphosée. Elle vient de confesser sa faute auprès de Jésus et elle se transforme en véritable évangéliste. Elle retourne en Sichar et elle dit, et je vous lis le verset dans chapitre 4, si vous voulez le lire chez vous, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Philippe a dit à Nathanaël, « Viens et vois. » Cette dame est venue près de Jésus, elle a vu expérimenter et s'est posé la question, mais ne serait-ce pas le Christ ? En effet, il est le Messie. Il est le Messie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Dieu seul sait ce qu'il y a dans le fond de ton cœur, les pensées les plus secrètes, tes désirs les plus profonds, ceux inassouvis. Mais Jésus, voyant cela, veut t'amener sur son chemin. Sur son chemin. Alors, tout est une question de vouloir. Comme Cyril l'a fait chanter, il faut prendre la décision. Jésus est un gentleman. Il n'enfoncera jamais une porte. Puisque dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte. Je rajouterai à la porte de ton cœur. Je me tiens et je frappe. Je t'appelle par ton prénom. » Je t'invite à me faire entrer si tu ouvres la porte. Et là, Jésus nous renvoie la balle. Si tu ouvres la porte, alors voici, je rentrerai et je souperai avec toi. Je partagerai ton quotidien. Lui avec moi, moi avec lui. Il y a cette intimité, cette proximité qui s'installe. Jésus n'est pas un Dieu lointain, comme on pourrait l'imaginer, comme une personne divine, barbe blanche, très austère, très comme on pourrait le représenter. Mais Jésus, il est proche de nous. Jésus, il est proche de ceux qui s'attendent à lui. Et on arrive dans un troisième tableau, la rencontre de Marie Magdala, de Magdala. On avait le sceptique, c'était Nathanaël. On avait la non concernée, c'était la Samaritaine. Pour elle, les Juifs ne lui parlent même pas. Donc le salut, ça ne me concerne même pas. Mais il y a aussi celle qui était déçue. Marie de Magdala avait placé tout son espoir. Mais nous voici à la fin de l'histoire, la crucifixion. Tous les espoirs des disciples sont perdus. Tous. Mais guidée par l'amour, Marie va au tombeau le 3e jour. D'ailleurs, petit quiz. Et là, je vous pose une question. Combien de jours Jésus est-il resté mort dans le tombeau ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Pas tout à fait. Alors 3 jours, c'est 72 heures à peu près. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures que Jésus est resté dans le tombeau ? Moins. En fait, bon, j'arrête mon petit quiz, je vous torture. 3 jours, c'est 72 heures. En fait, Jésus est resté 39 heures dans le tombeau. Ah, c'est une moyenne, hein, bien sûr. Hein. Environ 39 heures. Car d'après les écrits, il est mort le vendredi à 15 heures. Et quand Marie se présente au tombeau, il est 6 heures du matin le dimanche. Donc en calculant, ça fait 39 heures. En gros, il est resté un jour et demi, un gros jour et demi dans le tombeau. Ça, c'est juste pour votre culture générale. Mais il est vrai qu'il est ressuscité le troisième jour. Vendredi, samedi, dimanche. Il est ressuscité le troisième jour. On replace dans le contexte. Marie arrive, et je vous lis le texte de Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, un dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Viens et constate, Jésus est vivant. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Jésus l'avait annoncé. La chose qu'il a dite s'exécute. Il est vivant. La mort ne pouvait le retenir. Mais Marie, avant de vivre ce miracle extraordinaire, premier témoin de la résurrection du Christ, puisqu'en retour, là, quand l'ange dit au mari, allez promptement le dire aux disciples, sur le chemin, il rencontre Jésus. Jésus les rassure, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Mais avant cela, c'était la déception. Et peut-être en ton cœur, tu as été déçu de la foi, déçu même des chrétiens, déçu même de prières non exaucées. Tu as été déçu. Un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est en plein sabbat, ils rentrent. Ils quittent Jérusalem, ils ont Jérusalem dans le dos et ils sont déçus, déprimés. Jésus marche avec eux et reprend toutes les Écritures. Il part dans toutes les Écritures pour montrer qu'il était là et que ceux qui arrivaient devaient être comme ceci. Et à un moment, Cléopas prend la parole et dit « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans quand il nous parlait ?» Jésus leur annonçait qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, mourir et qu'il devait ressusciter. Il est vivant. Amen. Alors comme sur le chemin d'Emmaüs, les disciples retournent rapidement à Jérusalem. Marie, qui constate que le tombeau est vide, elle rencontre Jésus, court le dire aux disciples. Et Jésus se révèle à plus de 500 témoins. Pendant 40 jours, il accomplit encore des miracles. Il prodigue ses enseignements et il est là près des disciples. Parce que l'avantage d'avoir cette pleine confiance en un Jésus qui est vivant, c'est qu'il est proche de nous. Ce n'est pas un Jésus lointain. Et peut-être, et pour terminer, je terminerai en disant cela, que dans ton cœur, tu es soit sceptique, soit non concerné. Ou peut-être déçu, à l'image de ces trois personnages. Mais à chaque fois, et à chaque fois, nous l'avons vu, tout commence par une rencontre avec Jésus, une invitation à expérimenter son amour. Donc, comme Jésus, je mets la balle dans votre camp. Viens et vois, que vas-tu faire ? Viens et vois, que vas-tu répondre à cette invitation ? Vas-tu rester sous ton figuier à réfléchir, méditer, comme Nathanaël ? Vas-tu, comme Marie, rester dans la déception ? Vas-tu, sinon, comme cette femme, me sentir « Non, c'est pas pour moi, je suis trop jeune. Non, ça c'est pour ceux qui sont faibles d'esprit. Non, ça me concerne pas, j'ai d'autres choses à faire. Ou alors vas-tu répondre favorablement, me voici. Seigneur, je veux te rencontrer. Je désire te rencontrer parce que ma vie n'a pas de sens sans toi. Viens et vois combien Dieu est grand. Viens et vois combien Dieu t'aime. Viens et vois toutes ces paroles merveilleuses que Jésus a dites à ses disciples sont pour toi. Référencées dans un ouvrage, le best-seller mondial, la parole de Dieu. Je disais ce matin que la Bible est le seul livre où l'auteur connaît chacun des lecteurs. C'est beau. Mais la Bible, c'est le seul livre où Dieu parle. Il y a beaucoup de livres qui parlent de Dieu, mais il y en a un seul où Dieu veut te parler. C'est à travers la parole de Dieu. Et cet après-midi, dans la plus grande simplicité, je vous ai annoncé ce Christ vivant, ce Christ qui a souffert pour vous. Mais j'aimerais prendre un temps et vous demander de prendre cette décision si vous le voulez bien. On va courber nos fronts. On va demander au Seigneur de parler au cœur, tout simplement. Et mon ami, je vais t'inviter, comme Philippe l'a dit à Nathanaël, mais je ne suis pas là pour discuter avec toi, mais viens et vois. Et j'aimerais te demander, on a nos fronts qui sont baissés, nos yeux fermés, on réfléchit sur ce qui a été dit, on réfléchit à notre propre vie, comme cette Samaritaine qui avait son secret dévoilé. Mais qu'ai-je besoin ? Ai-je besoin de Jésus ? Vais-je accepter son invitation ? Si tu désires répondre favorablement à cette invitation, je vais te demander une chose très très simple. Personne ne te voit, tout le monde a les yeux fermés. Je vais te demander de lever ta main. Lever ta main ne va pas changer ton comportement, mais en levant cette main, c'est comme si tu la levais en pleine mer, en train de te noyer. Tu tends la main pour chercher le secours de l'Éternel. Jésus veut te sauver. Alors lève cette main, tout simplement cette main tendue vers Jésus-Christ, cette main tendue en disant « Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ces nombreuses années, tous ces temps où j'ai vécu sans toi. Je te demande pardon et maintenant je t'accepte à venir dans ma vie. Cette main tendue, Jésus, elle est pour toi. Je veux saisir ta main qui me secourt. Lève la main, mon frère. Lève la main, ma sœur. Ne remets pas demain. Ne vis pas une vie sans Jésus. Parce que ta vie sans Jésus, elle ne sera que fade, sans goût, sans valeur. Mais lève cette main auprès de Jésus. Accepte son secours. Prie dans ton cœur. Secours-moi, Jésus. Viens me sauver. Je te connais, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, moi, je veux te voir. Comme Job a pu le dire, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Jésus veut te sauver. Cette main tendue, elle est vers Jésus-Christ. Maintenant, sens l'amour de Jésus. Serrer ta main. T'attirer jusqu'à lui. Te prendre dans ses bras d'amour. Et t'appeler par ton nom en disant « mon enfant ». Si tu as levé cette main, tu peux dès aujourd'hui confesser en ton cœur et par ta bouche, « Je suis enfant de Dieu, j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai accepté Jésus comme mon maître et mon Seigneur, je suis enfant de Dieu. » À partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Ta destinée n'est plus de ce monde, mais ta destinée est en Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Alléluia. Si vous avez levé cette main, je vous encourage à vous rapprocher auprès de votre pasteur pour aller plus loin. Parce que cette décision de lever sa main n'est que le point de départ. Tout commence par la prière. Tout commence par le fait d'accepter Jésus dans son cœur. Mais quand tout commence, il y a tout un bel avenir derrière. Et Jésus veut t'amener vers des choses tellement merveilleuses. Alors mon ami, plie le genou encore devant Jésus-Christ pour le restant de ta vie. accepte ses conseils, accepte ses directives, car tout ce qu'il va te dire, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va rester quelques instants dans la prière. Et... Ah, si peut-être quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui parce qu'il est malade, on va profiter de ces quelques instants encore pour prier pour vous. Et peut-être même mon frère, ma soeur. Voilà, si quelqu'un a besoin, vous approchez devant et Nathanaël va prier pour vous au nom de Jésus. Sachant que c'est Jésus qui guérit encore, c'est Jésus qui agit. Hein, l'homme, il n'a rien, n'a pas de pouvoir. Alors si vous...